Radio Okapi.
Radio Okapi.
Étoile.
Étoile.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi la fréquence de la paix. Bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Étoile qui reçoit aujourd'hui une femme d'exception sans doute. Elle est pilote professionnelle, son nom c'est Mamicho Ponchi, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes également secrétaire générale de l'Association Nationale des Pilotes du Congo. Nos auditeurs ne vous voient pas mais moi je suis leurs yeux et leurs oreilles. Mm-hmm. Vous êtes jeune, petite de taille, 1m60, 65 peut-être ?
1m60.
1m60, voilà. Qu'est-ce qui vous emmène dans l'aviation ? C'était quoi ce désir ?
J'ai toujours voulu faire l'exception, très jeune. Et déjà à l'école primaire, j'étais parmi le meilleur de mon école et les meilleurs de ma classe. Et généralement, je voulais laisser une très grande différence. Donc si j'étais première de la classe avec 90%, je voulais entendre que la deuxième est à 80%. J'ai tiré toujours l'écart, quoi. Donc j'ai même été beaucoup dans le bouquin, très jeune. Et j'étais encadrée en quatrième deuxième année par les sœurs thérésiennes.
Oui.
À cette époque, elles nous apprenaient un peu sur l'émancipation de la femme. Elles nous motivaient, elles voulaient faire naître en nous notre vrai nous, quoi. Parce que pour elles, elles trouvaient qu'on avait la culture qui nous empêchait d'évoluer,
d'avancer.
Voilà.
Et là, vous êtes dans la province
du Kasaï,
Mbujimayi, précisément.
Hein. Ouais, oui, Mbujimayi. Et faisant partie de cette équipe, en quatrième des humanités, j'ai pris un vol pour Kinshasa pendant les vacances. Au départ, je n'avais pas prêté attention, mais à mon retour, j'ai fait l'analyse. Au départ, j'ai vu des pilotes vieux et hommes.
Oui.
Et au retour, il n'y avait que des vieux et des hommes dans le cockpit.
J'ai dit, mais attends. J'ai jamais vu de femme, c'est pas possible.
Voilà. Alors j'ai dit, mais attends, moi je peux être la première, quoi.
Oui.
Et je reviens au début de l'année, en cinquième, j'ai dit à mes collègues, j'ai dit, écoutez, moi je vais être pilote.
Là, vous avez 14, 16 ans, pardon.
J'avais 15 ans.
15 ans.
Alors j'ai dit, moi je serai pilote. Tout le monde s'est moqué de moi, attends, c'est la folie. En plus, les contextes ne permettent pas. En Mbujimayi, déjà, c'est les femmes à la cuisine ou au mariage, déjà. Et moi, j'ai jamais un concept qui sort de l'ordinaire, c'était la folie. Puis après, j'essayais de m'y mettre. J'ai commencé déjà, à l'époque, il y avait déjà l'internet. Je commençais à faire des recherches, à voir est-ce que c'était possible pour que je sois pilote et tout. Et à la fin, j'ai vu que c'était possible. Pour moi, c'était juste question d'études. Donc il fallait que je me mette aux études. Voilà.
Et donc finalement, vous obtenez votre diplôme d'État. Quand vous terminez, vous voulez faire le pilotage. Votre papa vous dit non, vous devez d'abord aller à l'université.
En fait, le choix de l'ISTA, c'est encore une fois de plus, je suis allée à l'encontre de la volonté de mes parents.
Oui.
Parce que généralement, à l'époque, tout le monde allait faire l'économie, le droit. Dans ma famille, il y a plus d'économistes et des juristes. Et j'ai dit, je vais faire l'ISTA. Alors mes frères, mes cousins disent, attends, ta folie.
Oui.
Essaye d'orienter ta folie. Hein. Et puis j'ai dit, non, moi, je vais faire l'ISTA.
C'est un institut qui sort des génies, mais qui n'a pas très, très bonne réputation.
Voilà, voilà,
mais il y a beaucoup de personnes intelligentes qui sortent de là.
Pas seulement des personnes intelligentes. Moi, je me dis, pour le développement d'un pays, on a besoin d'ingénieurs.
D'ingénieurs, oui.
On a besoin d'ingénieurs. Malheureusement, l'ISTA, on a vendu son côté très négatif pour moi, mais j'étais étudiante.
On a vendu plus une mauvaise image,
voilà,
de l'ISTA.
Ce qui est faux.
Oui.
Parce que moi, j'ai fait l'ISTA pendant 4 ans. Pour moi, l'ISTA, c'est... attendez, il a un programme normal et bien.
L'aviation civile, quand vous y arrivez, qu'est-ce que vous apprenez ? Vous dites que vous avez été là-bas contre la volonté de votre père, c'est ça ?
Si, si.
De vos parents.
De tout le monde.
Oui.
Comme d'habitude.
Vous avez été contre la volonté de tout le monde.
De tout le monde.
Parce qu'on se dit, bon, cette jeune femme, elle est un peu... elle est un peu trop... Elle a un peu trop d'ambition.
Voilà.
Elle veut se diriger dans un domaine qui est plus réservé aux hommes.
Aux hommes.
Enfin, en tout cas, selon ce que les gens pensent. Donc vous arrivez à l'ISTA, même pour vous, entre les étudiants, il y a combien de femmes comme ça, ou combien d'étudiantes avec vous dans votre promotion ?
Déjà à l'époque, si je ne me trompe, on avait une centaine de femmes sur 10 000 étudiants, parce que j'ai quand même fait partie du groupe à la
fin. Sur l'ensemble des étudiants.
Des étudiants.
Hein. Oui.
Mais aujourd'hui, je pense, je suis rentrée, je pense qu'il y a quand même un nombre
élevé.
Et l'aviation civile, pour moi, je l'ai choisi parce que je voulais être pilote. Et je voulais pas m'éloigner de ce que je ferais
plus tard.
Donc j'avais cette j'étais convaincue que je serais pilote et je voulais pas m'éloigner, je voulais rester dans le domaine. Voilà pourquoi je vais faire l'aviation civile, grâce à l'option exploitation aéronautique. C'était vraiment proche, donc je restais proche de l'avion.
Vous êtes considérée comme role model pour beaucoup de jeunes femmes dans différents organismes ou associations. Vous encouragez justement les jeunes femmes ou les filles à se lancer dans l'aviation. Quels sont les autres débouchés professionnels?
Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'aviation, elle est vaste. On peut, après l'ISTA par exemple, tu vas faire une formation, tu peux être inspecteur d'aviation civile. Ça, c'est mon rêve. Tu peux travailler comme logmaster, tu peux travailler comme dispatcher. J'ai pas vu des dispatchers femmes.
C'est qui un dispatcher?
Un dispatcher, c'est celui qui prépare le vol. Et, parce que l'avion, c'est ce que je vous ai dit, c'est une chaîne. Eux, ils préparent les vols, ils donnent aux pilotes le routing, la météo, ils vous disent les carburants, vous discutez les carburants que vous devez prendre. C'est ces agents qui distribuent le vol.
Okay.
C'est un travail, en tout cas moi aux États-Unis, quand je me disais si je ne suis pas pilote, je devais être dispatcher. C'est quelque chose, c'est un travail, ils travaillent avec les pilotes dans les grandes compagnies.
Oui.
Aux États-Unis, ils vous demandent même des devis et quand vous avez une mauvaise météo. Donc un dispatcher, c'est vraiment un travail solide. Mécanicien, à peine je vis une chez Congo Airways, je suis très fière d'elle. Je me dis, mais attends, cette femme, elle a osé. Il n'y a pas que ça. Donc j'ai des copines qui sont contrôleurs d'avion, contrôleur à la RVA, les ATC. C'est un travail, et aujourd'hui, je félicite beaucoup les ATC congolais. Ils sont dans le contrôle classique. Ça veut dire qu'ils utilisent leur tête pour séparer les avions, tout ça. C'est énorme, en fait, l'aviation. Tu peux faire la radio-télécommunication pour calibrer les aides à la navigation. C'est vraiment un domaine grand. Quand je tiens des conférences, je motive les filles pas seulement à être pilote, parce que on va te donner la raison des moyens
financiers.
Mais attends, tu peux faire autre chose que le pilotage, mais rester dans le domaine.
On peut faire le pilotage sans passer par l'aviation civile, sans apprendre.
Évidemment.
Et là, c'est quoi? C'est juste apprendre à piloter un avion, mais il faut connaître les règles quand même, non? De l'aviation.
Oui, les règles d'aviation, tu l'apprends en pilotage. Il y a la partie théorique et la partie pratique. Moi, j'ai fait l'ISTA, c'est pas parce que c'est obligatoire de le faire avant d'être pilote, non. Moi, j'ai fait l'ISTA parce qu'il fallait que je fasse l'université. Et il fallait que je satisfaise au désir de mon père, parce que pour lui, il estimait que tous ses enfants aillent à l'université. Tous ses enfants l'ont ramené un diplôme d'université, il en est fier. Moi, mon désir, c'était être pilote. Alors, pour que je fasse ces études de pilote, il fallait que je satisfaise à mon père pour à la fin qu'il puisse financer mon désir aussi.
Cette formation pendant 4 ans à l'ISTA, à l'Institut supérieur des techniques appliquées, vous a quand même apporté quelque chose?
Si.
Oui.
Si, ça m'a beaucoup apporté parce que j'avais déjà des notions de base d'aviation, les principes de vol, j'avais appris sur la mécanique de vol. Plein de cours, la météo par exemple, je l'ai appris déjà à l'ISTA, parce que pour moi c'était pas nouveau, les nuages, tout ça, je l'avais déjà appris, et ça a beaucoup contribué.
C'était un plus.
Yeah, c'était un plus. Oui, yeah. Et c'est toujours un plus pour moi, parce qu'à la fin, j'ai mon diplôme d'ingénieur.
Une fois que vous avez décroché votre diplôme, vous vous inscrivez dans une université, dans une école d'apprentissage en Afrique du Sud.
Oui, c'était possible de faire les études en Éthiopie, au Kenya, en Afrique du Sud. Mais bon, il fallait encore une fois de plus connaître quelqu'un qui pouvait bien vous orienter. À l'époque, je rencontre le commandant Massiala, qui m'oriente.
Et, ancien pilote
d'Air Zaïre.
Oui. Ouais.
Il était en contact avec une école en Afrique du Sud. Et c'était très facile pour moi à la fin maintenant d'aller à l'école, commencer avec mes études proprement dites. Quoi.
Alors vous êtes buté à une difficulté, c'est l'apprentissage de la langue d'abord.
Voilà.
Et puis la deuxième difficulté, c'est quand même les finances. Parce que c'est une formation qui coûte assez cher.
Évidemment. Au tout début, Monsieur Massala nous a présenté un calendrier, comment le faire, parce que mon père n'avait pas le cash. Parce qu'à l'époque, moi, quand je l'ai fait, au total, ça m'a coûté dans le 60 000 pour l'école.
60 000 dollars?
Oui. Alors, mon père ne pouvait pas
disponibiliser cet argent-là
pour moi.
Oui.
Vous voyez, j'ai bien dit que j'étais d'une famille de 7.
Oui.
Alors, à l'époque, je me suis dit, on va scinder mes études. Ce qui fait que moi, j'ai fait les études pendant 5 ans. Finalement, quand vous êtes déterminé, vous atteignez toujours vos rêves. Finalement, j'ai obtenu ma licence de pilote professionnel.
J'aimerais savoir, Mamie Chopanchi, cette première fois qu'on vous entrait dans un avion, c'est un tout petit avion, hein?
Oui, c'est un avion de 4 places. Oui. Moi, j'ai fait mon premier avion, c'était le Cessna 152. Et on a toujours un vol qu'on appelle intro flight, donc les vols d'introduction. Je vous jure que c'était pas facile pour moi.
mais avant ça, vous avez été dans un simulateur, vous voyez non. Un peu ce que c'est. Il y a des cours enfin il y a la pratique, il y a la théorie.
En fait, avant d'aller dans un simulateur, oui. Voilà, c'est un peu un contraste. Nous on a commencé directement dans un
avion. Ah, ok, d'accord.
Alors c'était, on arrivait, on te dit ben demain c'est ton intro flight. On t'apprend, on te donne quand même le principe du vol, l'importance, qu'est-ce qui fait, est-ce que l'avion se sustente, tout ça. On te donne ces petits cours pendant 2-3 jours et on te met dans l'avion pour aller faire ton premier vol. Les vols d'introduction.
C'est un avion de 4 places. C'est vous et votre instructeur.
Yeah.
Ok. Il y a deux manettes.
Il y a deux manettes. Il y a des manettes de deux côtés.
Oui.
Donc il y a l'instructeur qui est à droite et à gauche. Et l'instructeur il fait des exercices. Il t'a demandé de l'accompagner pour le premier vol. Je jure que c'était. J'ai fermé les yeux parce que tu voyais les sols pour la première fois.
Ok.
J'ai toujours pris des grands avions. Je ne voyais pas les sols. C'était ouf. Je voyais les sols plus loin. Mais là, tu sens que c'est plus proche de toi.
Mais c'est qui décolle alors
c'est
petit appareil? Ah, c'est pas vous, hein?
Le premier vol, c'est l'instructeur
qui
décolle.
Oui,
c'est l'instructeur qui décolle. Il te demande de juste l'accompagner. Tu tiens la manette, tu sens le mouvement avec lui et voilà. Et après le premier vol, je suis rentrée dans ma chambre. J'ai appelé mon père, j'ai dit papa, alors, je sais pas si je vais continuer parce que
oui.
Je viens de vivre quelque chose que voilà. Et mon père me dit, mais attends, t'as fait tous ces parcours, pas pour aller me dire que tu vas pas continuer, attends. C'est quelque chose que tu aimes et c'est pas ça qui va t'empêcher d'aller
jusqu'au bout. Et pour vous, c'est quoi? C'est l'émotion, c'est la peur, c'est le stress. Vous avez eu, vous m'avez dit, le mal de l'air. Pour vous, c'est. Non, vous avez dit, je ne pourrai jamais.
Les mélanges des mal de l'air, la peur, tout ça. Et réaliser que c'est finalement ce que je voulais, mais attends, je n'avais jamais goûté. C'est comme un premier repas, quoi.
Oui.
Mais bon, j'ai dormi. Le matin, j'ai dit, papa, oui, je continue.
Ok.
Je continue avec.
C'était passé.
C'était passé. Ma formation, c'était pas facile pour moi. C'était pas du tout facile, je vais pas mentir.
Comment ça?
Pour moi, c'était pas facile. Arriver, au tout début, y avait un problème d'abord de langage et les instructeurs qui n'avaient pas. Tu sentais pas en eux ces désirs de transmettre, vous voyez? Et ça n'a pas facilité la tâche. Ça m'a pas facilité la tâche du tout. Mais sinon, parce que j'étais très déterminée, ce que je dis toujours aux gens, pour moi, il n'y a pas d'impossible. Je me dis toujours, je peux franchir ce que les autres appellent impossible. Et pour continuer, je suis chrétienne, donc j'ai puisque ça, quoi, la foi.
Exactement. C'est la suite de votre magazine Étoile. Nous recevons aujourd'hui Mamie Chopanchi, pilote professionnelle, également secrétaire générale de l'Association nationale des pilotes du Congo. Alors, Madame Ponchi, on a parlé en première partie de votre détermination ou votre désir plus jeune à devenir pilote. Vous avez fait l'ISTAR, on l'a dit, avec l'aviation civile, plus précisément avec option exploitation aéronautique. Ça fait 5-6 ans, hein, comme ça que vous pilotez. Vous travaillez actuellement pour la compagnie Congo Airways. Auparavant, vous avez travaillé à Goma Express, Katanga Wings et Air Baraka.
Oui.
Votre premier vol seul, ça veut dire pas avec l'instructeur quand vous étiez encore étudiante en Afrique du Sud. Comment ça s'est passé? Vous veniez d'où? Vous alliez où?
En fait, le premier vol seul se passe pendant la formation. C'est pendant la formation, vous faites l'entraînement pendant un bon bout de moment. On essaie de vous laisser décoller, atterrir et on voit que vous êtes capable. Ça s'est passé en Afrique du Sud.
Oui. Oui.
Donc c'est ça le premier vol, on appelle ça les vols solo. Je vous jure que vous avez, au début tu dis mais l'avion il est petit. Mais le jour quand tu es là seul, tu te dis mais attends c'est un Boeing ça.
Oui.
Mais c'est merveilleux à la fin quand tu atterris, tu te dis ben ça construit la confiance en soi.
En soi, oui.
En fait. Mais mon premier vol commercial s'est fait à Goma, à Walikale. On atterrit sur une route. Mais bon, je suis arrivée, je me suis dit, ben, je voulais travailler.
C'est une route en terre battue.
Ah non, une route asphaltée.
Asphaltée.
Yeah. Les pilotes qui ont fait Walikale vous diront.
Oui.
Et c'était un choc pour moi. Pourquoi? Parce que je ne m'attendais pas. Mais bon, c'est une très bonne expérience en même temps. Quand je suis arrivée à Goma, les commandants m'appelaient, les patrons ont dit j'ai besoin d'un copilote. Et il a dit oui, je t'amène un pilote qui arrive, tout ça. Les patrons viennent à l'aéroport attendre la pilote, au fait.
Oui.
Le pilote. Et il était très déçu quand je suis descendue.
Ah oui, pourquoi? Vous avez lu la déception sur son visage?
Oui. Et le commandant m'a dit, il était très déçu, il attendait un pilote parce que c'est 4 rotations par jour à Goma. Mais bon, voir une dame, vous voyez toutes les connotations qu'on donne à une femme fatiguée, les excuses qu'elle va donner.
Jeune, voilà, surtout, il se dit, elle n'a pas beaucoup d'expérience.
Et vous voyez ma taille.
Voilà, 1m60, je dis waouh,
j'ai quand même
pas
pris
beaucoup.
Du poids, quoi. C'était pire à l'époque.
Oui.
Et il n'était pas du tout content. Mais bon, le commandant m'a dit, tu sais, les patrons n'est pas content, mais prouve-le que tu es venu faire les trajets. Moi, je suis venu faire les travaux. Le premier jour, on est parti, j'ai fait 4 rotations. Les gars, il était choqué. Et puis après, mm-hmm. pour moi, c'était un plaisir à la fin.
Parce que vous l'avez épaté positivement.
Voilà.
Oui.
Et après, c'était un objet de publicité pour lui. Tout le monde, ouais, c'est une femme. Et tous les clients voulaient venir payer pour voir la femme. Et voilà.
Cette femme pilote.
Pilote. Et à Wali Kale, mon premier atterrissage, le matin, je reviens. C'était à l'époque des élections, je me rappelle, en 2011. Ma deuxième rotation, je trouvais plein. On m'a dit, oui, on prend quand même des clients passagers, candidats. J'ai dit, bien, si on a ramené un candidat populaire ici.
Oui. Oui.
C'était un grand choc. Arrivé le matin, mon premier vol, j'avais ramené un abbé qui allait dire la messe. Il a dit, attendez, vous voyez, la compagnie Goma Express a pris une femme, une Congolaise. Après la messe, allez à l'aéroport, vous allez voir. Et j'arrive, ma deuxième rotation, c'était plein.
Et les gens sont comme ça, curieux,
voilà,
de venir voir qui est cette jeune femme pilote.
C'était un plaisir pour eux. En tout cas, j'ai pu lire les plaisirs
sur leur visage,
sur le visage de tous les vieillards. Et tout le temps, quand j'allais dans les petites villes, Shabunda, Kalima, c'était un plaisir pour ces mamans de dire, attends, une Congolaise. Et voilà.
Et vous-même, quel effet ça vous fait de voir comme ça les gens s'étonner?
À la fin, je me dis, quelque part, j'ai impacté positivement ma société.
Oui.
Ça veut dire, j'ai enlevé dans cette population cette crainte de dire, ben, est-ce que nous, on peut aussi être astronaute? Est-ce que nous, on peut aussi être juriste? Et au moins, ils avaient un exemple vivant, quoi. Mm-hmm. Et moi, c'est les plus grands plaisirs, en fait.
Alors, vous nous disiez qu'à Wali Kale, vous atterrissez sur une route hein, asphaltée. Mm-hmm. Quand vous apprenez, justement, les cours de pilotage, on vous apprend à atterrir, j'imagine, dans les situations d'urgence. Vous savez amerrir un avion?
En urgence, parce que déjà, moi, on nous apprend quand tu vas faire, après les études, quand tu dois passer sur une machine, tu dois aller repartir au cours pour cette machine. On t'apprend plus comment te prendre pendant les urgences. C'est-à-dire, si aujourd'hui, il m'est arrivé que j'ai perdu mes moteurs sur une mer, je dois être à mesure d'atterrir sur cette mer, d'amerrir, quoi.
Oui.
Ou si j'avais un problème sur, par exemple, le boulevard Triomphal. C'est assez grand. Je suis très sûre que je pourrais... C'est l'urgence, c'est pas légal, mais bon, s'il faut sauver la vie...
C'est une situation d'urgence.
Voilà, s'il faut sauver la vie de gens, pourquoi pas atterrir sur
mais
une route.
Est-ce que vous-même, Micho Ponchi, vous avez déjà mesuré, on va dire, certains dangers ou certains inconvénients de votre travail?
Oui, parce qu'avant de me décider de le faire, j'ai essayé de peser, comme tout le monde, de peser les pour et les contre de ce travail. Pour moi, c'est un plaisir. Vous voyez, quand vous aimez quelque chose, je donne un exemple bête, quand vous aimez un homme, il n'y a pas de défaut sur cet homme. Donc, vous voyez,
oui,
que c'est le parfait. Pour moi, c'est un métier parfait. C'est le moyen de transport le plus rassuré au monde, c'est le plus sécurisant.
Le plus sûr, oui.
Si vous comptez le nombre d'accidents d'avion et le nombre d'accidents de voiture, j'ai trop peur de conduire une voiture.
Vous avez plus peur de conduire une voiture que de piloter votre avion.
Je ne conduis même pas.
D'accord.
Voilà.
Oui.
Et voilà, donc c'est un moyen de transport le plus sûr. C'est vrai, dans la société aujourd'hui, dans la société congolaise, c'est pas un métier où il y a plus de femmes. C'est un métier encore réservé, si on peut dire, par rapport à la culture aux hommes. Tu as plus d'hommes que de femmes. Je suis dans l'Association nationale des pilotes du Congo, il y a 2 femmes.
Et vous m'avez dit d'ailleurs, de toute l'histoire de l'aviation de notre pays, il n'y a que 3 femmes pilotes, dont vous.
Jusqu'ici.
Donc actuellement, il n'y en a que deux, parce que la toute première ne travaille plus.
Ouais,
donc vous êtes deux.
Ouais, la toute première, Mireille Mangala, vit en Belgique. Elle ne travaille plus. Et la deuxième, c'est Madame Gedawitch. Et je suis la troisième. Donc c'est quand même... moi, je me dis, il n'y a pas beaucoup de femmes. Pas parce que les femmes ne sont pas capables. C'est parce que les femmes n'ont pas d'informations dessus. C'est vrai. Ce sont des études qui coûtent cher. Mais bon...
Quel est le regard de ces hommes pilotes sur vous?
Allez, je me dis que je suis bébé, hein, je suis l'air bébé, je suis très choyée.
Oui.
Et ils font tout pour m'apprendre. J'ai beaucoup de respect pour eux, beaucoup, beaucoup de respect. Pour eux, ils veulent voir des femmes venir. Mais pour qu'il y ait des femmes dans le métier, il faut qu'il y ait quelqu'un qui motive.
Exact.
Parce que dans tous les autres pays, il y a beaucoup de motivation, il y a des facilités. Moi, je me rappelle en Afrique du Sud, j'ai eu des copines avec qui on faisait le cours, dont les études étaient financées par des compagnies ou l'État.
Oui.
Donc chez nous aussi, si on veut voir des femmes, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de... Allez, je suis sélectionnée role model au Gender Champions dans le programme Pépinière. J'étais sélectionnée pour Girls Rising. Toutes ces filles, quand je vais dans les campagnes, toutes ces filles, il y a des filles qui sont là, qui veulent faire le pilotage.
Qu'est-ce que vous leur dites?
J'ai leur dit qu'il n'y a pas d'impossible. Je demande juste d'avoir cette passion, la détermination, et de ne pas se faire une barrière. Ça veut dire, c'est vrai, tu pénètres dans une famille pauvre, mais vous savez, quand vous poussez, moi je me dis, tous ces grands ont poussé pour être ce qu'ils sont. Vraiment, il faut être déterminé pour atteindre vos objectifs. Parce que moi, par exemple, je ne vais pas dire que je suis un produit de bourse ou quoi que ce soit, mais c'est ma détermination. Dès mon enfance, je me suis dit, j'ai choisi un schéma.
Vous aviez déjà 15 ans quand vous avez dit, je vais être pilote.
Et je me voyais déjà pilote.
Alors, Mamie Choponchi, on va marquer une petite pause. Hein. On a quelqu'un en ligne pour vous.
Allô?
Oui, bonjour, Monsieur Paty Bolia, vous êtes en ligne avec nous?
Oui, je suis là. Mamie, c'est vraiment une amie, une famille, une grande partenaire. C'est quelqu'un qui prend des risques dans tout ce qu'elle fait, hein, parce qu'elle aime toujours faire ce qui est de l'ordinaire, ce que tout le monde ne peut pas faire, mais lui, elle ose toujours faire ce qui est spécial. Et premièrement, c'est une surprise pour nous parce que c'est une demoiselle qui a toujours eu des ambitions horribles, et que moi, j'appelle en Afrique du Sud, nous appelons les skills, c'est quelque chose de spécial. Elle a pu faire quelque chose, même en Afrique du Sud, les demoiselles n'ont pas cette qualification-là. C'est une pilote qualifiée, et elle a encouragé les jeunes dames, les demoiselles à faire ce qu'elle a fait aussi.
Merci, Paty Bolia. Mamie, tu as eu le temps de faire couler quelques larmes, hein, d'où peut-être les fonds de bruit que vous avez entendus ici dans le studio. Elle sourit également. Je pense qu'il y a un peu de l'émotion dans tout ça.
Oui, il n'a pas menti. Paty, c'est vraiment un ami. C'est pour ça que vous avez vu mes larmes.
Oui.
C'est un ami d'enfance. Et ce sont parmi les personnes qui m'ont beaucoup encouragée. Quand je suis arrivée en Afrique du Sud, à un moment, j'ai failli abandonner. Et avec tout ce qui m'est arrivé, il a toujours été là pour moi. Voilà.
Paty Bolia, merci beaucoup d'avoir accepté de porter ce témoignage sur notre invité. Et bonne journée là-bas en Afrique du Sud.
Merci, je vous remercie.
Juste pour continuer cette émission, Mamie Choponchi, vous êtes notre invitée, vous êtes pilote professionnelle également, je l'ai dit, secrétaire générale de l'Association nationale des pilotes du Congo. J'aimerais demander que fait cette association. Il y a beaucoup de critiques dans l'opinion nationale congolaise et pas que, sur notamment la sécurité dans nos aéroports, la sécurité dans les avions. Est-ce qu'on se demande si réellement nos pilotes sont qualifiés? Je suis sûre que ce sont des choses qui vous parviennent. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
Le Congo, en son temps, à l'époque d'Air Zaïre, avait déjà, pour moi, le Congo avait déjà écrit son histoire. L'association est là pour protéger les intérêts du pilote Congo. Parlant de pilotes, s'ils sont qualifiés ou pas, les pilotes congolais sont très qualifiés.
Mais qu'est-ce qui manque?
Moi, je dis, quand les gens parlent d'accident, tout ça, l'accident, c'est une chaîne. Et les pilotes, c'est les derniers maillons de la chaîne. Vous voyez, c'est un problème organisationnel. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup félicité l'aviation civile congolaise, la RVA qui fournit aussi certains efforts, qui doivent fournir beaucoup plus, les compagnies aériennes qui commencent à fournir des efforts grâce à la naissance du Congo Airways, qui était les souhaits de l'Association nationale des pilotes du Congo. On a écrit en notre temps un mémoire dans ce sens. Dans tous les pays, l'aviation est conduite par une compagnie nationale. La compagnie nationale, c'est comme, comment on peut dire, c'est l'exemplaire, en fait.
Donc, c'est le miroir, c'est le reflet.
Voilà. Et à l'époque où l'aviation sombrait dans le noir le plus terrible, on n'avait pas de compagnie nationale au Congo. La naissance de Congo Airways a vraiment impacté positivement l'aviation congolaise et elle est en train de
croître. D'évoluer.
Voilà. Et vous voyez, Congo Airways, comme c'est une compagnie nationale, elle peut exiger à la RVA, par exemple, de réparer ses pistes. Parce que si la compagnie, la Congo Airways refuse d'aller, vous avez entendu un moment, un débat où Congo Airways ne voulait pas aller en Bujimaï, par exemple. Ce n'est pas par plaisir qu'ils ont refusé de partir. Ils ont refusé de partir parce qu'on ne répondait pas à certaines normes.
À certaines normes.
La piste ne répondait pas à certaines normes.
Exact.
Par rapport à ces avions qu'elle avait à l'époque, des Airbus. Donc, voilà pourquoi l'association est là. L'association est là comme un agent qui va accompagner l'État congolais à la sécurité
des passagers, de la compagnie aérienne.
Voilà, la sécurité en général. La seule chose que j'ai dit, j'ai toujours dit, je vais terminer ma carrière. C'est là qu'on appelle bon pilote. Le bon pilote, c'est celui qui termine sa carrière. Et vous voyez, vous avez la dernière cérémonie où il y a les camions anti-incendie qui vous jettent l'eau parce que vous venez de terminer votre carrière.
Ah, okay. C'est ça, mon c'est comme rêve. Ça que ça se passe.
Ouais, dans des pays
mieux organisés.
Voilà, on n'a pas encore, mais j'espère que ça va commencer parce qu'on a une très grande compagnie qui vient de naître.
Oui. Et est-ce que les vols de jour et les vols de nuit sont différents? Vous avez déjà volé de nuit?
Oui, il y a une grande différence. Il y a même une qualification pendant la formation, on appelle les vols de nuit. Parce que tu as la façon de voir est différente. Parce que la nuit, il y a un moment où tu as l'impression d'être très haut pendant que tu es bas, ou tu as l'impression d'être trop bas pendant que tu es haut. C'est différent. C'est très différent.
Et quelles sont les distances que vous avez déjà faites? Vous ne volez que sur le Congo, hein?
En fait, parlant des distances, j'aime bien parler de mon vol, mon meilleur vol. C'est mon vol Lubumbashi, Cape Town. Cape Town, Livingstone, Nairobi, Lubumbashi.
Vous avez fait tout ça?
Voilà.
Wow.
C'est mon meilleur vol. Donc, mon vol pour Cape Town, je pouvais voir le Table Mountain. Je ne sais pas, Table Mountain en français, c'est...
chaîne de montagne.
Chaîne de montagne à Cape Town. Pendant les mêmes vols, je suis allée voir Livingstone, Victoria Falls, les chutes de Victoria.
Mais...
Pour les mêmes vols, je suis allée voir Kilimanjaro, la plus haute montagne. Mais sinon, j'ai plein de bons vols. Pour moi, j'ai dit toujours, je conseille toujours les filles à s'éduquer parce que, allez, pour
à
moi,
s'instruire, hein, vous voulez dire. Je comprends, vous avez plus une prédominance anglophone que francophone.
À s'instruire, ouais. Pourquoi? Moi, je définis l'éducation comme une clé passe-partout. L'instruction est très importante. Et mon idole, c'est Mandela. Mandela a dit que l'éducation, c'est une arme pour changer les mondes. Et nous qui sommes aujourd'hui classés comme pays en voie de développement, j'ai toujours voulu passer ces messages, c'est l'éducation qui nous manque. Et l'éducation au Congo aujourd'hui, avec notre culture, ça favorise plus les hommes. Ce qui est une erreur aujourd'hui, si on met tous les hommes à l'école, tous les hommes, je ne suis pas sexiste, tous les hommes, c'est 48% dédiqués au Congo. Voilà pourquoi il faut ouvrir cette porte à la femme, même le 2% pour qu'on ait 50 at least.
Oui. Les 50-50.
Voilà.
Merci beaucoup à vous, Mamicho Ponchi. C'était un réel plaisir de vous avoir dans les studios de Radio Capi. Vous étiez notre invité pour cette émission Étoile. Je rappelle que vous êtes pilote professionnel et secrétaire général de l'Association nationale des pilotes du Congo. Merci à Berry Franklin Luchaka et à Thérèse Okonkwo qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve avec vous la semaine prochaine pour vous présenter une nouvelle étoile.